le salut dans chaque maison. Voilà donc le thème de notre convention missionnaire. Et aujourd'hui, nous allons simplement introduire, et vous avez certainement eu connaissance du programme, et d'ailleurs cela nous a été rappelé par un de nos frères ici, comment le programme va donc se présenter. Nous commençons aujourd'hui, et tout au long de la semaine, nous serons à l'école du Seigneur. Tout au long de la semaine, nous viendrons chercher le Seigneur avec une foi ferme, avec une conviction profonde. Car quiconque cherche Dieu, eh bien, finit toujours par le trouver. Alors que cette semaine soit une opportunité pour nous de rencontrer le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas loin. Le Seigneur est parmi nous. Il est au-dessus de nous. Il est à notre gauche. Il est à notre droite. Il est devant nous. Il est derrière nous. Alors c'est en nous de le chercher sur le chemin qui conduit jusqu'à lui. Vous savez, pour venir d'ici, de Kinshasa ici, nous avons pris la route. Autant que je sache, jusque-là, il n'y a que cette voie-là qui nous conduit tout droit. Et bien, quand vous prenez cette route, quand vous vous engagez là-dessus, eh bien, votre destination s'est maintenant dit, ou alors si vous pouvez continuer à aller jusqu'au Mwanda. Et donc, c'est la route. Vous n'allez pas essayer de trouver des petits sentiers quelque part à Maluku. Et pour essayer de voir comment vous risquez d'arriver trop tard. Vous voyez? Il y a donc un chemin, il y a une route qui a été préparée pour cela. Il en est de même avec Dieu. Voyez-vous? Le chemin de Dieu. Eh bien, c'est celui qui a dit « Je suis le chemin ». C'est en lui. Quand nous sommes en lui, nous sommes sur le chemin. On ne peut pas chercher Dieu en dehors du Christ. Alléluia. Salut dans chaque maison. Avant ça, je voudrais prier un tout petit peu, et puis ensuite, je vous souhaiterai un très bon appétit, car la parole est une véritable nourriture pour nos âmes. N'est-ce pas? C'est le vrai chikwang. C'est le vrai foufou. C'est le vrai makemba. Le vrai lituma. Les vraies frites. Vous voyez, c'est ça. Nous devons apprendre à apprécier cette parole. Et je suis convaincu que si cette Église a connu cette croissance quasi exponentielle, c'est parce que dès le départ, à l'instar de la borne maison-mère, le pasteur a mis l'accent sur la parole, sur sa prédication, sur son enseignement. Et c'est parce qu'il a compris, comme chacun de nous, que sans la parole, c'est la mort assurée. Mais avec la parole, c'est l'assurance assurée. Alors, nous allons nous mettre debout pour prier, si vous voulez bien, si vous n'êtes pas fatigué. Comment être fatigué dans une réunion de réjouissance comme celle-ci, où tous nous dansons, nous esquivons un pas de danse, ngebou, ngebou. Nous inclinons nos têtes dans la prière alors que nous sommes debout. Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer devant toi, par nos chants, par nos cantiques, Seigneur, par nos prières. Nous nous sommes approchés de toi, ô Dieu, pour te rendre ce qui t'est dû de toute éternité, à savoir la louange, l'adoration. Ces moments, ô Dieu, ont été et sont encore une opportunité pour nous de t'exprimer toute notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu nous as accordés au travers de cette œuvre, la borne Matadi. Depuis, Seigneur, son démarrage il y a 25 ans, et tout au long, Seigneur, de ces années, tu as été fidèle. Tu as honoré ta parole par des conversions multiples. Tu as honoré ta parole par des miracles de tout genre. Seigneur, tu as attiré des gens à toi au travers de ta parole. Et nous ne pouvons, ô Dieu, que nous réjouir, Seigneur, d'avoir été bon, d'avoir été bienveillant, d'avoir été fidèle, Seigneur, par rapport à la parole qui a été prêchée dans ces lieux, par rapport, Seigneur, à ta parole qui a été enseignée pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les résultats au-delà de nos espérances, Seigneur. Merci pour tout, pour toutes les extensions qui ont vu le jour au travers de cette extension des Matadi. Seigneur, comme nous l'avons vu aujourd'hui, nous avons, Seigneur, aujourd'hui, plus d'une vingtaine, Seigneur, d'extensions, de points, ô Dieu, à partir desquels ta lumière brille, non seulement à travers, Seigneur, la province du Congo central et même au-delà. Et nous ne pouvons que nous réjouir de ce travail merveilleux, extraordinaire, que tu es en train, Seigneur, d'abattre dans cette ville de Matadi, et en particulier dans ton Église et à travers l'Église. Merci pour tout. Après t'avoir parlé, après nous avoir exprimés devant toi, après avoir reçu et accueilli favorablement nos prières, nos chants, nos cantiques, bref, l'expression de nos cœurs, nous voulons maintenant nous asseoir à tes pieds et te tendre une oreille attentive, car tu es le docteur par excellence. Seigneur, non seulement tu es la parole vivante, mais tu es aussi l'enseignant et par excellence. Alors, enseigne-nous. Dépose ta parole dans nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. C'est donc une convention missionnaire à l'occasion de nos 25 ans d'existence. L'existence du centre évangélique francophone à la borde dans cette ville de Matadi, dans cette province du Congo central. Et donc, dans une convention de missionnaires, eh bien, la pensée principale a toujours été, sera toujours, celle du salut. Car comment parler de la mission? Comment parler, mes amis, de l'appel que le Seigneur adresse à son Église, de l'appel qu'il adresse à chacun de nous, si ce n'est celui de nous tourner vers nos proches, d'aller vers ceux que nous connaissons, même au-delà, pour leur apporter le message de l'Évangile. Et nous allons donc lire un texte qui, généralement, est lu lorsque nous arrivons à une certaine période de l'année, cette période qu'on appelle période de la Pentecôte. Et à cette occasion, nous tournons vers le premier chapitre du livre des Actes, et puis le chapitre 2, etc. Et beaucoup sont liés à ça. Mais je crois que le calendrier est là pour nous le rappeler. Mais nous pouvons parler de la Pentecôte tout au long de l'année. Alléluia. Car la flamme de l'Évangile, la flamme du Saint-Esprit n'attend pas que nous arrivions dans cette période qu'on appelle la période de la Pentecôte pour qu'elle soit allumée. Non, pas du tout. La Pentecôte, nous devons la vivre au quotidien. Alors nous allons lire dans Actes chapitre 1er, juste 4 versets, Actes chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Nous lisons, comme il se trouvait, il est question du Seigneur lui-même, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et au chapitre 2, celui qui est toujours derrière sa parole, eh bien, va accomplir cette promesse du Père. Au chapitre 2, ils vont tous être baptisés du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la grande moisson va débuter. À partir de ce moment-là, eh bien, les disciples du Christ vont se lever en étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, en étant embrasés par le feu de la Pentecôte. Ils vont aller partout pour annoncer, pour proclamer l'Évangile de Jésus avec des résultats extraordinaires, des résultats glorieux que nous connaissons. En effet, lisez le livre des Actes, vous allez voir combien le Seigneur est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Partout ils sont passés, ils ont laissé des traces indélébiles. Partout ils sont passés, ils ont annoncé, ils ont proclamé l'Évangile. Partout où ils sont passés, ils ont fait reculer les ténèbres. Ils ont combattu l'incrédulité. Ils ont amené la délivrance, la libération aux captifs. Ils ont amené Jésus partout où ils ont été. Et c'est ainsi que nous voyons cette Église revêtue de la puissance d'en haut, cette Église brûlant du feu d'en haut, aller de gloire en gloire, de triomphe en triomphe, de victoire en victoire. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Cette mission, eh bien, se poursuit. 2000 ans plus tard, eh bien, Jésus est encore le même. Son ordre est encore d'actualité. Les apôtres, ceux qui étaient au début, sont tous partis. Tant d'autres qui se sont levés ou que le Seigneur a fait lever tout au long de l'histoire de l'Église et qui ont prêché la parole sont tous partis. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Alléluia. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la moisson. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés à être des outils entre les mains du Seigneur pour le salut des perdus. Alléluia. Vous savez, quelquefois, nous pensons, nous nous disons, oh là là, comment le travail est tellement dur. Si le Seigneur pouvait amener Paul, susciter Paul de nouveau, susciter Pierre, eh bien, tenir de tels discours, c'est dire à Dieu, eh bien, ta puissance est limitée. Paul, Pierre, Jean ont fait leur temps. Et s'ils ont pu changer leur monde, ce n'est pas parce que l'un s'appelait Pierre, l'autre Jacques, l'autre Paul, s'ils ont pu changer leur monde, c'est parce qu'ils avaient compris que la stratégie de Dieu reste une personne, le Saint-Esprit et son baptême. Alléluia. Et ils sont passés, mais l'Esprit du Seigneur est encore présent au milieu de nous. Et ils sont passés, mais le feu d'en haut est encore possible pour chacun de nous. Et pour notre convention, le Seigneur nous a montré la direction. Le salut, non pas au travers d'une campagne en plein air. Le salut, non pas lors de réunions spéciales organisées à l'Église pour évangéliser, pour gagner les âmes, mais le Seigneur nous donne une direction. Eh bien, c'est le salut dans chaque maison. Alléluia. Qui a une maison? Je ne demande pas si vous êtes propriétaire, hein. Non, ce n'est pas ça. Vous habitez quelque part, oui ou non? Eh bien, ce que Dieu veut, que nos maisons soient transformées en des lieux de salut. Alléluia. Que ce soit des lieux où l'Évangile est proclamé, des lieux où les gens viennent, non seulement pour partager le gâteau à l'occasion d'un anniversaire, non seulement pour nous réjouir parce que notre enfant réussit aux examens d'État, à cette occasion nous appelons tous les NOCO, ceux qui sont à Tchela, ceux qui sont à Mwanda, et bien ils viennent et autour d'un repas nous nous retrouvons, nous chantons et tout cela. Oui, nous pouvons le faire, mais surtout que nos maisons soient des lieux où nous accueillons les gens pour leur apporter le message de l'Évangile. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et cela nous concerne tous et nous allons le voir. C'est la responsabilité de chacun de nous. Car quelquefois nous sommes trop extravertis, tournés vers l'extérieur. Nous voyons les ténèbres au niveau de la société. Nous voyons des vies détruites par le péché dans ma tête. Nous voyons des collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans la magie, qui sont liés par toutes sortes de traditions. Et nous voyons tant de choses. C'est très bien, voyez-vous. Mais dans la plupart des cas, nous ne voyons pas ce qu'il y a dans notre famille. Nous ne voyons pas ce qu'il y a dans notre maison. Nous venons danser, nous venons louer, nous venons adorer. Nous sommes dans la joie, mais nous ne faisons rien pour attirer notre mari à Christ. Nous disons toujours, oh, c'est un homme compliqué. Vous pensez que Dieu n'appelle que les gens moins compliqués? Vous pensez que le Seigneur n'appelle que ceux qui ne sont pas compliqués, qui sont là comme ça? D'ailleurs, le Seigneur aime les gens compliqués. Voilà. Les gens avec un cerveau à plusieurs étages. Voilà. Les gens qui trouvent que l'Évangile, c'est pour les moins instruits, pour les gens qui n'ont pas étudié. Et ce sont des gens comme ça que le Seigneur me les ramassait à l'appel. Donc, ne limite pas Dieu. Ne dis pas que mon père, il est très cartésien. Mon père, il a été professeur à l'UNIKIN, il a pris sa retraite, il s'est retiré à Matadi. Et là, il écrit. Ne dis pas ça. Voyez-vous, Dieu est capable de le toucher. Alléluia. Prie. Et puis va. Non pas pour argumenter avec lui. Parce que quelquefois, nous les pasteurs, nous pensons que le fait d'être pasteur, nous acquérons tous les savoirs. Voilà. Il y a des pasteurs qui ne sont pas humbles. Il y a des domaines que je ne maîtrise pas, où j'aurais besoin du pasteur Mouéou, pasteur Aimé, pasteur Alain, Delphin, Katajunga. Il y a des choses, si je veux apprendre à danser, mais je me tournerai vers vous. Vous allez me montrer un peu comment on fait, gebou, gebou. Si je vais apprendre à chanter, je me tournerai vers vous. Vous voyez, donc, le Seigneur ne nous envoie pas pour argumenter avec les ténèbres. Non! La réponse aux ténèbres, c'est la lumière de l'Évangile. Nous devons simplement dire à notre Père, à notre grand-père, le Seigneur t'aime. Jésus a donné ta vie pour toi, sa vie pour toi. Parlez. Oui, va rejeter aux petits, on le sait. Moi, j'ai été au grand séminaire. Vous arrivez aujourd'hui avec votre évangile. Non, nous, on a connu les pères blancs. Nous, on a accueilli les premiers missionnaires. Ils nous ont enseigné, vous, vos histoires, là, la borne. Ça date de quand, ça? Vous voyez, c'est ça, bizambizambi. Vous voyez, ne regardez pas ça. Regardez à Christ. Lui, il est capable de le toucher. Et quand il s'élève de son trône, personne ne peut lui résister. Le salut dans chaque maison. Parlez du salut, mes amis. C'est parler de l'évangile du Christ. Car le salut est intimement lié à l'évangile, à la bonne nouvelle du Christ. Et parler de la bonne nouvelle du Christ, parler de l'évangile du Christ, eh bien, c'est parler de celui qui est l'objet de l'évangile. Celui qui est le cœur de l'évangile. Car au cœur de l'évangile, il y a la personne du Christ et il y a l'œuvre unique. L'œuvre suprême, l'œuvre singulière qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Et c'est en vertu de ce que Jésus a fait que tout coupable peut être justifié. Oh, alléluia. Nous sommes donc sauvés, non pas par les œuvres, quelles qu'elles soient, mais nous sommes sauvés par Jésus au travers du prix qu'il a payé à la croix. C'est parce qu'il est venu sur cette terre, c'est parce qu'il a pris nos péchés sur lui, nos malédictions, nos maladies, nos souffrances, notre culpabilité. C'est parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est ressuscité au troisième jour qu'il peut sauver tout celui qui s'approche de Dieu en son nom. Alléluia. Nous ne pouvons pas comprendre véritablement le salut si nous ne comprenons pas l'état actuel de l'homme, ou du moins l'état naturel de l'homme. À cause du péché, tout homme, mes amis, est coupé de Dieu. Nous avons été conçus dans le péché. Nous sommes nés dans le péché, et par conséquent, eh bien, nous sommes coupés, nous sommes séparés de Dieu. Dieu est saint. Depuis le premier péché de nos ancêtres Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le péché fait des ravages terribles au niveau de l'humanité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! Personne, mes amis, personne. Tous. Ça veut dire que tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Or, aujourd'hui, vous trouverez encore, 2000 ans plus tard, Des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont descendants de tels prophètes. Qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont fils de pasteurs. Ils sont sauvés parce qu'ils ont adhéré à une religion. Ça, c'est le mensonge du diable que nous devons combattre absolument. Car le diable combat l'évangile. Le diable essaie de distraire les gens au travers de toutes ces fausses religions, au travers de tous ces faux prophètes. Il y a eu des prophètes. Et même ces prophètes-là n'ont jamais cherché à attirer leur regard sur eux. Ils étaient animés par l'Esprit du Christ. Leur message, leurs paroles se sont dirigées dans une seule direction, celle du Messie. Oh, alléluia. La vraie prophétie amène le champ à Christ. Les vrais prophètes sont animés par l'Esprit du Christ. Si un prophète, un homme se lève et dit « Je suis prophète » et commence à te raconter des salades ou des ngoubas, eh bien, il ne faut pas le croire. C'est que l'Esprit de Dieu ne travaille pas en lui. Le Saint-Esprit est là pour glorifier un seul nom. Un seul. Il n'est pas là pour glorifier un mouvement. Il n'est pas là pour glorifier une région, une province, une ville. Non, même pas Jérusalem. Il est là pour élever le seul nom, le nom qui nous a été donné d'en haut, le nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est un test véritable. Qu'est-ce que le prophète prêche? Quel est le contenu de son message? Qu'est-ce que le pasteur prêche? Cherche-t-il à attirer le regard des gens sur lui ou alors sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? Alléluia. Mes amis, ne jouez pas avec votre âme. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous n'avons pas deux types de vie. Une vie qu'on écrit au brouillon, et puis après, il dit, bon, maintenant, ah, c'est comme ça. Vous savez, c'est comme à l'examen. Hein. Vous travaillez d'abord sur une feuille de brouillon, et puis, quelquefois, vous raturez, et puis vous recommencez. Non, on ne vit qu'une fois. Votre âme n'a pas de prix. Votre âme est éternelle. Un jour, vous quitterez cette terre. Un jour, vous vous en irez. Vous passerez dans l'éternité. Et la grande question est celle-ci. Où passeriez-vous votre éternité? Mes amis, avec ce message, avec cette convention, nous voulons vous réveiller à cette responsabilité d'attirer le regard, l'attention des uns des autres sur le seul nom qui nous a été donné d'en haut, le nom de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Et comme je le disais avec cette convention, eh bien nous voyons dans quelle direction notre mission doit être accomplie. C'est le salut dans chaque maison. Puisque le salut est intimement lié à la personne du Christ, alors parler du salut dans chaque maison, c'est parler de la nécessité, de l'importance d'amener Jésus dans chaque maison, d'amener Jésus dans chaque famille, avant de voir plus loin, commencez par voir là où vous êtes. Nous avons lu, le Seigneur a dit, vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, là où ils étaient, avant d'aller dans toute la Judée, et puis ensuite dans la Samarie, et puis enfin aux extrémités de la terre. Commencez là où ils étaient. Ils ont d'abord commencé à prêcher l'évangile à Jérusalem. Et puis par après, ben, ils ont commencé à se répandre un peu partout, aller en Samarie, où nous rencontrons notamment le diacre Philippe, qui va prêcher la parole de Dieu, etc. Et donc tout doit commencer là. Le salut dans chaque maison. Qu'entendons-nous par maison? Voyez-vous, qu'est-ce que signifie maison dans le contexte biblique? Ça, c'est une question que nous devons nous poser. Eh bien, le mot maison a deux sens. C'est d'abord le lieu qui accueille une famille, c'est-à-dire l'édifice, le bâtiment. Voilà. Vous pouvez m'inviter dans votre maison, par exemple. À la fin de ce culte, vous venez dites, « Pasteur, mon épouse et moi, et les enfants, nous vous invitons chez nous. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous invitez dans votre maison. Ce n'est pas au restaurant. Autrement, vous nous diriez, ben, pasteur, nous vous invitons au restaurant. Et donc, ça, c'est le premier sens. C'est le sens d'édifice, le sens de maison, le lieu qui accueille la vie d'une famille. Le deuxième sens de maison, eh bien, c'est la famille elle-même. Alléluia. Alors, donc, quand on parle de la maison de Judas, alors qu'il était déjà mort, quand on parle de la maison de David, alors qu'il était déjà mort, on parle de sa lignée. Alléluia. Donc, il y a la famille, il y a le lieu qui accueille, mais il y a aussi la famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc ici, le Seigneur nous encourage à transformer nos maisons, à transformer la maison du voisin en un lieu où le salut est prêché, en un lieu où le salut est proclamé. Oh, alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, c'est aussi et surtout la meilleure façon d'évangéliser. Voyez-vous, les campagnes en plein air ont leur place. Des réunions spéciales d'évangélisation à l'église ont leur place. Car l'église, ce n'est pas seulement un lieu où nous venons pour adorer, pour louer le Seigneur. Mais c'est aussi un lieu où nous proclamons le salut, n'est-ce pas? Un lieu où nous annonçons Jésus. Et ceux qui viennent, eh bien, nous leur donnons l'occasion de s'engager vis-à-vis du Seigneur après s'être repentis. Et gloire au Seigneur. Mais nos maisons, la maison du voisin, nos familles, nos proches, eh bien, doivent être considérés comme des lieux où nous apportons le message de l'Évangile. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Et donc, ce thème est un encouragement que le Seigneur adresse à chacun de nous. Un encouragement qui nous montre que le Seigneur est préoccupé par le salut de ceux qui nous sont proches. Le Seigneur sait quel amour nous avons avec ceux qui nous sont proches. Quel amour nous avons pour nos enfants, oui ou non? Et voyant l'amour que nous avons pour nos enfants, l'amour que nous avons pour nos parents, eh bien, il aimerait nous voir dans son ciel de gloire, ensemble avec nos enfants, ensemble avec nos parents, ensemble avec nos grands-parents. Il le sait, mes amis. Et donc, il est aussi préoccupé par le salut de ceux qui nous sont proches. Et comme je le disais trop souvent, on ne voit que ceux qui sont dehors. On ne voit que tous ces koulounas. Vous en avez ici? Oh, pardonnez-nous les quinois. C'est nous qui vous avons amené tous ces jeunes-là. Ouais. Je demande pardon. Même le désordre sur la route. Kinshasa a exporté ça. Vous devez dire aux gens, écoutez, nous sommes à Matadi. N'hésitez pas. Tindeko, t'as la calme, toi. Nous sommes à Matadi. On n'est pas à Victoire. Non, calme. Chez nous, on n'est pas agité. Nous, c'est le calme de l'océan.
Alléluia.
Oui, de temps à autre, il y a un peu de tempête. Mais le calme finit toujours par l'emporter. Vous voyez? Donc, nous vous avons emporté tout cela. Donc, on voit les besoins de tous ces jeunes gens. C'est vrai. Nous avons le devoir d'aller les chercher. Mais dans la plupart des cas, nous sommes tellement tournés vers l'extérieur que nous oublions ceux qui sont avec nous. Alors que le Seigneur voudrait, au travers de cette convention, nous sensibiliser par rapport à cette responsabilité, eh bien, de faire de nos maisons, faire de nos familles des lieux où nous prêchons, des lieux où nous annonçons, nous proclamons l'Évangile du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans la parole de Dieu des gens qui ont accueilli l'Évangile et comment l'Évangile a fini par atteindre toute la famille et comment la famille a pu expérimenter la joie du salut, la joie qu'il y a, mes amis, à se réconcilier avec Dieu. C'est une joie qu'un homme ne peut expérimenter véritablement que lorsqu'il rencontre le Seigneur. Voyez, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la joie que les gens ont lorsqu'ils ont trop bu. Ah, vous les voyez tous en tout cas. Vous voyez, c'est une joie factice, passagère, éphémère. La joie du Seigneur, elle va au-delà. Et nous allons voir, à partir de quelques exemples, comment le Seigneur est entré dans certaines maisons. Ça a commencé par le chef de famille, ou le chef de la famille, et puis, ses saluts s'est étendu aux autres. Nous allons à Philippe, quelque part, à l'époque, à Macédoine. Paul et Silas, dans ce travail missionnaire, arrivent dans cette ville. Ils prêchent l'évangile, le Seigneur se manifeste puissamment, au point où une femme qui était possédée par un esprit des pitons, c'est-à-dire un esprit des divinations, un esprit qui donnait, entre guillemets, des prédictions. À l'époque, dans l'Antiquité, ce genre de pratiques étaient courantes. Voyez, c'était un moment où les ténèbres dominaient le monde, où le diable faisait tout ce qu'il voulait. Et encore aujourd'hui, hein, nous avons dans notre pays, même ici à Matadi, je suis convaincu, des gens qui entrent en transe, n'est-ce pas? Un esprit prend possession de leur corps et ils se mettent à débiter n'importe quoi. Et voilà que cette femme-là, habitée par un esprit de Python, rencontre deux serviteurs de Dieu. Il y eut une rencontre de puissance. D'un côté, deux serviteurs du Christ, qui étaient étrangers dans cette ville, qui n'étaient pas connus, non, par les autorités de la ville. Ils étaient là non pas pour faire les affaires, mais ils étaient là pour les affaires du royaume, pour enrichir le royaume en pillant l'enfer. Et de l'autre côté, vous avez, mes amis, les puissances des ténèbres, incarnées par cette femme possédée par un esprit démoniaque, un esprit qui l'avait asservie. Et derrière cette femme, il y avait des gens qui vivaient grâce à tout cela, eux-mêmes possédés. Et il y eut une rencontre de puissance. Et dans cette rencontre, entre les ténèbres et la lumière, eh bien, je ne vous apprends rien de neuf en vous disant que c'est toujours la lumière qui triomphe. La lumière a brillé, les ténèbres ont reculé. Le Seigneur s'est manifesté, cette femme a été délivrée. Plus de prédictions. Et quand les maîtres apprennent ça, que celle qui était une source de profit pour eux, source d'argent pour eux, eh bien, ils se disent quoi? Ils vont essayer de créer une agitation dans la ville. Ils vont même entraîner les autorités dans leur colère. On va arrêter Paul et Pierre, plutôt et Silas, on va les chicoter. On va le rouer de coups et puis on va le jeter en prison. Les voilà en prison. En les mettant en prison, ces gens pensaient se débarrasser d'eux. En les mettant en prison, ils pensaient qu'ils lieraient la parole de Dieu. Rien. Vous ne pouvez pas lier la parole. Pour eux, c'était fini, nous sommes tranquilles. Quand l'homme dit c'est fini, c'est alors que la puissance de l'évangile se manifeste. Pendant qu'ils étaient en prison, au lieu de se plaindre, au lieu de dire, Seigneur, nous sommes ici en ton nom, regardez comment on nous a chicotés, dit Silas, ou Silas, qui se serait tourné vers Paul en disant, mais vieux, moi je ne savais pas, tu m'as entraîné dans cette histoire à Matadi. Regarde maintenant où nous sommes. Mais il fallait me le dire. Ils ne se sont pas plaints. Ils savaient qu'annoncer l'évangile, c'est prendre un risque énorme. Car annoncer l'évangile, c'est aller dans un territoire qui est déjà conquis par les ténèbres. Et maintenant, chasser le diable. Et cela ne se fait pas sans problème. Le diable va résister. Le diable va créer toutes sortes d'obstacles. Mais in fine, c'est toujours Jésus qui triomphe. Et là, au milieu de la nuit, au lieu de se plaindre, le voilà qui loue, qui adore le Seigneur. Oui, chantez à tout temps, quelles que soient les circonstances. Apprenons à louer, Apprenons à adorer le Seigneur. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, eh bien, il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il le louait. Et je suis convaincu qu'il proclamait même le message de l'Évangile. Moi, je l'ai fait. Souvent, mon premier appel est celui d'évangéliste. Quand j'étais en Europe, je disais toujours aux jeunes qui étaient avec moi, il dit, soyez prudents. Nous pouvons en train de parler tout d'un coup, nous parlons d'autre chose, tout d'un coup, je bascule. Alors, il ne faut pas croire que je perds la boule. Je perds la tête. C'est parce que j'ai remarqué qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Alors, je commence à m'adresser indirectement à lui. On parlait, par exemple, « Ah tiens, nous avons croisé le pasteur Mouéou avec son épouse et tout ça. Comment il va tout d'un coup ?»« Ah, okay, non, il va très bien tout d'un coup, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. » Et je change, je dis, mais frère, vous savez que le Seigneur est très bon. Vous savez que Jésus est venu pour sauver le perdu. Alors là, vous regardez, tiens, mais le pasteur oublie que je suis converti ou pas. Et donc, je l'ai fait hier. Mon épouse est là. Nous étions avec le couple Dickinson au restaurant, en train de manger le foufou. Et bien, monsieur est en train. Je ne sais pas s'il est là, que le Seigneur vous bénisse. Il est assis juste à côté. Je me suis retourné, je l'ai vu. On a commencé à parler de mille et une choses. Et tout d'un coup, je commençais à parler de mon témoignage. On parlait d'autre chose. Oh, le Seigneur est bon, je me souviens comment j'ai commencé. Le Seigneur. Et même maman me demandera à l'hôtel, elle dit, mais la personne là, tu le... Enfin, ce n'est pas quelle question elle m'a posée. Et donc, je m'adressais indirectement à lui. Ah oui. J'ai fait ça, c'est une méthode, j'ai développé une méthode en Europe que j'ai même enseignée dans une faculté de théologie. Je disais aux étudiants, j'ai dit écoutez, et je l'avais expérimenté à plus d'une fois. Je prenais un jeune, je dis aujourd'hui nous allons prendre les bus ou les trams, hein. Vous avez les trains en ville là. Nous allons là où le bus ou les trams démarrent, comme ça toutes les places sont vides. Quand on monte, je disais au jeune, j'ai dit voilà, à mon partenaire, hein, il dit tu te mets en diagonale avec moi, pas à côté de moi. Tu te mets comme ça. Moi je suis là, mais tu te mets comme ça. Comme ça, au prochain arrêt, les gens qui vont monter vont être obligés de s'asseoir à côté de moi et à côté de toi. Et effectivement. Et dès qu'il montait, je commençais à m'adresser à mon partenaire. Je commençais à l'évangéliser, mais en réalité, je parlais aux autres. Une fois, maman m'a vu. C'était un soir. J'étais encore étudiant à Bruxelles, la nuit. Je descends du métro. J'arrive à la maison. Je débarque avec un juif. Elle est là. J'ai accroché un juif dans le bus. Je lui annonçais l'évangile, le monsieur n'en revenait pas. Je lui dis, écoute, moi je descends au prochain arrêt. Il dit, je descends avec vous. Il dit, on y va. Quand j'arrive, elle me voit entrer avec un monsieur, c'est un juif. J'ai beaucoup d'expérience comme ça. Quelqu'un d'autre dans le train qui allait dans une autre ville. On arrive là, on habitait à Jambou. Ah oui, puisque je parle de Jambou, le pasteur Betonvuko, Patrick, m'a demandé de vous saluer. C'est le pasteur d'une de nos églises des Assemblées de Dieu, la Pierre Vivante, à Jambou. Et je descends, c'est donc l'église que j'avais dirigée, je l'ai installée comme pasteur. L'homme était tellement touché par la parole, je lui ai dit, écoutez, moi je descends à la prochaine gare. Il dit, monsieur, je descends avec vous. Non, d'abord, je l'ai préparé. Il dit, vous savez, vous pouvez recevoir Jésus. Nous arrivons à destination, mais dans la gare de Jambou, il y a un petit snack là. Nous pouvons prendre une tasse de café, effectivement. L'homme est descendu. Nous sommes retrouvés. Je lui ai annoncé l'évangile. Voyez-vous, utilisez tous les moyens. Voilà. Ne soyez pas distraits, le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et je suis convaincu que dans leur prière, ils évangélisaient. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, parce que le geôlier, le chef de la prison, habitait juste à côté. Pendant qu'il priait, pendant qu'il célébrait le Seigneur, pendant qu'il chantait, quelque chose va se passer en prison. Il va y avoir un tremblement de terre. Les fondements de la prison sont secoués, branlés. Les chaînes des prisonniers tombent. Les portes de la prison s'ouvrent. Quand le geôlier se lève, il constate que les portes de la prison sont ouvertes. Il s'est dit, voilà, tous les prisonniers sont partis. Ça va être ma mort. Et à l'époque, la mort, c'était toujours des morts atroces. Alors il dit, autant que je me tue moi-même, que plutôt d'être exécuté comme un bandit. Pendant qu'il cherchait à se tuer, Paul crie, « Arrêtez, monsieur, nous sommes là !» Alléluia. Et quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Que dois-je faire pour être sauvé? Donc, dans leur louange, dans leur chanson, ils exaltaient le salut. Ils l'ont entendu. Dieu a touché. Il restait simplement lui donner l'occasion de croire. Alléluia. Il y a des prières évangélisation. Le matin, là, vous priez, tout ça, le voisin est à côté. Eh bien, commencez à évangéliser dans la prière. Seigneur, je te bénis, tu es celui qui sauve. Tu peux guérir, tout ça. Moi, je l'ai fait plus d'une fois. À l'époque, il ne fallait pas m'approcher. Il ne fallait pas. J'avais des formules que je n'utilise plus aujourd'hui. Je disais aux jeunes, venez, on va griffer les gens avec l'évangile. Parce qu'on peut saupoudrer, jeter la poudre. Quand vous jetez la poudre au visage de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, hein? La poudre s'en va. Mais quand vous griffez, ça laisse des traces. Et là, que dois-je faire pour être sauvé? Voyez-vous, que faut-il faire pour être sauvé? Donc il avait suivi dans les chants, dans les louanges, qu'ils éclataient le Seigneur, qu'il est le seul sauveur, qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre salut. Alors, le Seigneur l'avait préparé. Et quand il dit ça, écoutez, c'est que Paul et Silas lui répondent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oh, alléluia. Toi et ta famille. Voilà. Eh bien, l'homme, il était dehors, il les avait amenés dehors, hein, parce qu'ils sont sortis de la prison et de la cellule. Et dit, ok, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Sur ce, il lui annonce l'évangile. Non seulement à lui, mais aux gens de sa maison. Alléluia. Le chef de la prison, le geôlier, n'a pas dit, j'ai une femme très difficile. Mettons-nous un peu de côté. Donc, je confesse que Jésus est le Seigneur et tout ça. Paul dit non. Toi et ta maison, ton quota. Alléluia. Tout s'est passé dans la maison. Cet homme a donné l'occasion aux membres de sa famille de croire. Oh, alléluia. Et toute la famille a cru, les geôliers et les siens, et tous furent baptisés. Et la Bible nous dit qu'ils furent dans la joie. Ils se sont réjouis au niveau de la famille. Jésus est entré dans cette maison. Jésus a sauvé non seulement le chef de la famille, le papa, mais il a sauvé également la famille. Et la joie a été partagée par toute la famille. C'est la volonté de Dieu que nos familles soient sauvées. Alléluia. Le salut est entré dans la maison du geôlier. Ne vous contentez pas simplement de votre salut. Faites tout pour faire entrer votre salut dans votre maison. Que vos enfants soient sauvés. Que votre mari, votre épouse soient sauvés. Que tous ceux qui vivent avec vous soient sauvés. La grand-mère qui est arrivée du village, avec ses conceptions bantou autres, eh bien, doit entendre le message de l'évangile. Il ne faut pas dire, ah, je ne veux pas la déranger, maman Abisoyo. Non! Si tu ne lui annonces pas l'évangile, elle reste dans l'erreur. Et s'il lui arrive de mourir, mon ami, elle perdra son âme pour l'éternité. Il n'y a que deux endroits où les morts s'en vont. Soit, des gens ont vécu avec le Seigneur. Quand ils meurent, ils entrent dans son repos, dans le repos éternel du Seigneur. Ils vont le rejoindre. Ils entrent dans sa félicité. Soit alors, c'est de l'autre côté. Dans le séjour des morts, déjà là-bas, avant le jugement dernier, il y a des grincements des dents. Il y a la souffrance atroce. C'est impossible de décrire en des termes humains, mes amis, la souffrance des gens qui s'en vont sans avoir rencontré Jésus. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est quelque chose d'horrible. Jésus lui-même a pleuré sur le Juif qu'il avait rejeté. Vous voyez ? Alors nous devons nous réveiller. Si nous aimons nos parents, faisons fi de leurs croyances, faisons fi de leurs traditions, apportons-leur le message de l'évangile, mais avec amour. Je dis, maman, tu dois croire. Si tu viens avec tes histoires du village, tu pars. Non, pas comme ça. C'est comme ça que des fois nous chassons les gens. Ces genres de discours ne peuvent pas mener les gens à Christ. Nous devons être patients, comme le Seigneur lui-même a été patient avec nous. Sachez une chose, la Bible nous dit, nul ne peut venir à Christ, c'est le Seigneur lui-même qui dit, hein, si le Père ne l'a dit. Ah, il y a tout un message. Ce n'est pas à toi de la tirer. Toi, tu dois préparer le terrain par la prière. Tu dois briser l'esprit d'incrédulité. Tu dois briser tous ces liens traditionnels. Il faut savoir qu'elle est née là-dedans. Elle a vécu là-dedans. Pour en sortir, ce n'est pas facile. Voyez-vous ? Toi, tu n'as pas eu ce malheur-là. Tu es venu pour les études, et puis tout de suite, tu as rencontré le Seigneur. Mais pas elle, pas lui, pas tes grands-parents. Alors agis avec amour envers chacun d'eux. Alléluia ! Le salut est entré dans la maison du geôlier. Ainsi, toute la famille a expérimenté la joie du salut. Il n'y a pas eu que le chef de la famille qui était responsable de la prison, mais il y a eu aussi tous les siens, tous ceux qui vivaient avec lui. Alléluia. Un autre cas, le cas de Corneille. Corneille, nous sommes dans Acte 10. C'était un homme qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes. Il était d'arrière-plan romain, donc ce n'était pas un juif. C'est quelqu'un qui avait adhéré au judaïsme, les craignants Dieu ou les prosélytes. Un homme qui faisait beaucoup de bien, beaucoup de monde. Et puis un jour, dans une vision, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, eh bien écoute, le Seigneur a entendu tes prières. Tes aumônes sont montées vers lui et se sont dressées en mémorial, littéralement. Envoie maintenant des gens à Jopé ou à Jaffa pour aller chercher un certain Pierre qui loge chez Simon le corroyeur. Quelle précision! Ce qui est formidable, mes amis, à chaque fois que je lis ces passages, je réalise combien le Seigneur nous aime. Cet ange puissant, eh bien, n'a pas eu la grâce ni le privilège de prononcer le nom de Jésus. Un privilège réservé à Pierre, un pauvre pécheur. Vous vous rendez compte ce que nous sommes devenus en Jésus? Les anges prêcheraient mieux. Imaginez-vous un peu si aujourd'hui, à l'occasion de 25 ans, tout le monde avait appris que l'ange Gabriel est ici. Akitagin à la borne. Je vous assure, il n'y aurait pas eu de place. Hein. Toute la ville, Balobinini, tu es le pasteur Maurice, à la borne là, oh, l'ange Gabriel. Je vous assure, toutes ces femmes qui vendent, tous ces gens-là, seraient venus pour voir l'ange Gabriel. Mais ici, il y a plus que l'ange Gabriel. Il y a le Seigneur des Seigneurs. Il y a le Roi des Rois. Et c'est vous, malgré votre passé, c'est vous, malgré votre parcours, c'est vous, malgré vos échecs, c'est vous, malgré tout ce que vous avez connu de mauvais. Mais le Seigneur vous a lavé. Le Seigneur vous a purifié. C'est donc à vous que ce privilège est réservé. Vous comprenez pourquoi Paul a dit, même les anges, ils plongent le regard. Même les anges n'en reviennent pas. Quand ils voient un homme comme moi qui prêche l'évangile, ils se disent, mais ce gamin qui est né, qui a été abandonné par son père, un blanc, qui a vécu seul avec sa mère, qui a connu toute la misère, cette maman s'est tournée vers les fétiches, vers toutes sortes d'occultisme. Cet enfant a vécu dans un milieu, dans un environnement pollué. Cet enfant est devenu, pour cet enfant, le plaisir était le seul but de la vie. Il a fait des choses, il a été partout, des choses sales. Et puis un jour, nous sommes au début de l'année 85, au mois de janvier, là à la borne, le message est prêché, car je rentre chez moi. Celui qui m'avait ramené à la maison me pose simplement la question, est-ce que tu veux recevoir Jésus? J'ai pleuré comme une madeleine. J'ai vu ma vie défiler devant moi, comme dans un film. Et plus ma vie défilait devant moi, plus je réalisais combien le Seigneur avait été bon envers moi. Et je pleurais encore davantage. Il y a de quoi que les anges, mes amis, soient surpris. Il dit aujourd'hui, il est serviteur du Roi des Rois. Aujourd'hui, il fait partie du royaume des cieux. Aujourd'hui, il annonce cet évangile éternel. Mais il y avait de quoi donner du tournis aux anges. C'est vous qui avez ce privilège. L'ange n'a pas prononcé. Il a envoyé, Cornée envoie le Jean jusque chez Simon. On va chercher Pierre. Entre-temps, le Seigneur avait déjà préparé Pierre. Pierre accepte de partir jusque chez Cornée à Césarée. Césarée, c'était la ville où le gouverneur romain habitait. Puisque nous sommes à l'époque où ce sont les Romains qui dominaient Israël. Et pour ne pas s'attirer la colère des Juifs, eh bien, le gouverneur romain ne pouvait pas habiter à Jérusalem, la ville où il y avait le temple, où tout s'est passé. Alors les Romains étaient très intelligents. Donc pour laisser un peu les Juifs tranquilles, ils avaient construit le palais du gouverneur à Césarée. Et c'est pourquoi on retrouve cet officier là à Césarée. Il y avait une garnison, c'était aussi une ville de garnison. Et là, quand Pierre arrive, que fait Corneille? Corneille invite ses parents. Corneille invite ses amis intimes. Parmi eux, je suis convaincu, il y avait aussi d'autres officiers de l'armée, d'autres généraux. Venez entendre quelque chose. Quand Pierre arrive, Pierre annonce l'évangile. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille. Les gens se sont convertis. Un service de baptême a été organisé. Cornée a transformé sa maison en un lieu de salut. Alléluia. Au lieu, comme je le disais, d'avoir toujours une maison qui organise des événements, des anniversaires, une réussite, un succès. On rassemble les gens, les collègues, et puis on prend du sucré, on mange, et quelquefois on met les chants, guébou, guébou, tout le monde, et puis ça s'arrête là. Mais le Seigneur aimerait que nos maisons soient transformées en des lieux de salut. Pourquoi ne pas organiser une réunion où vous invitez les gens de votre famille? Tonton, je vous invite, venez, et à cette occasion, un homme de Dieu, une femme de Dieu prêche l'évangile. Dieu voudrait faire ça. Travaillez là-dessus. Priez. Transformez vos maisons en un lieu de prière, afin que lorsque le Seigneur regarde votre maison, qu'il dise, cette maison est une maison de prière pour ma gloire. En même temps, par la prière, préparez votre maison à être un lieu où l'Évangile est prêché, et où les gens se convertissent, où les gens viennent, et puis plus tard, peut-être une cellule verra le jour dans votre maison, et les âmes gagnées dans votre cellule viendront à l'église. Alléluia. Oui, la maison de Corneille a été transformée en une maison de salut. Deux derniers exemples. Le cas de Lévi, Matthieu. Là aussi, j'ai développé une méthode d'évangélisation. Nous sommes dans Luc 5, versets 27 à 30. Le Seigneur appelle Matthieu. Lévi, c'est son autre nom aussi. Cet homme était un collecteur d'impôts. C'était des gens qui travaillaient pour les Romains. Les Romains avaient le système de prélèvement d'impôts, des taxes sur les marchandises importées ou exportées. Alors il y avait des bureaux de péage un peu partout. Et les péagers, les collecteurs d'impôts ou des taxes, eh bien prélevaient ces impôts ou ces taxes pour Rome. Rome fixait un certain montant, des taxes douanières, tout ce que vous voulez. Ils étaient des douaniers, ils étaient tout. Hein. Mais eux ajoutaient, ils allaient au-delà de ce qui était fixé. Pour les Romains, ce n'était pas leur problème. Du moment où ils versaient l'argent dans le trésor romain, il n'y avait pas de problème. Alors c'était des gens qui avaient une très mauvaise réputation. Voyez-vous, ils étaient haïs. D'ailleurs, certains, on ne les supportait même pas dans le temple. Voilà. C'était des gens de mauvaise vie. Et quand on parlait d'un collecteur d'impôts, c'était toujours des noms d'oiseaux qui sortaient. Tiens, ces prédateurs-là, ces corbeaux-là. Ah oui, les gens étaient fatigués. C'est comme aujourd'hui, vous devez avoir des gens, les percepteurs, hein, ici. Des taxes de ceci, des taxes de cela. Allez poser la question un peu à toutes ces femmes qui vendent. Elles connaissent bien ces systèmes de taxes. Ah, Bangowana. Tiens, ça c'est la taxe de la commune. On donne. Quelques temps après, maman, mais j'ai déjà payé. Dis, non. Ça c'est la taxe de la province. Ah, ok. Et puis après, non, mais ça c'est la taxe de solidarité. Mais solidarité, Anani, papa. Donc, alors, des gens comme ça, vous pensez que quand ils passent, on les applaudit? Quand on les voit, on tourne le dos. Voilà. Et donc, c'était des gens comme ça. Et Lévi était un de ces gens-là. Jusqu'à ce que le Seigneur passe par là. Il n'y a aucun homme qui soit si mauvais pour ne pas être sauvé. Oh, lui, c'est le plus grand voleur de tous les douaniers. Lui, oh là là, je n'ai jamais vu un homme aussi véreux, corrompu comme lui. Des gens comme ça, ils sont bons pour l'enfer, ne dis pas ça. Malgré son état, le Seigneur a donné sa vie pour lui. Il faut simplement prier pour lui, alléluia. Et puis voilà qu'un jour, et c'est là, le Seigneur a utilisé différentes méthodes. Il a prêché, il s'est adressé à la foule, mais il a eu aussi à aller chercher les gens individuellement. Et là, il passe devant le bureau de péage. Et derrière ce bureau, Monsieur Lévi, Matthieu, était là. Certainement, il s'est dit, ben tiens, c'est peut-être un nouveau client. Ah, voilà. Il était peut-être occupé à remplir les papiers, parce que ça défilait, hein. Donc, on devait noter, parce que les Romains surveillaient tout ça de près, hein. Et puis, le maître arrive. L'incarnation parfaite de l'amour. Ce jour-là, quelque chose s'est passé. Ce n'était pas la même ambiance. Les autres venaient pour payer en murmurant. Ah, vous connaissez ici, non? Vous allez payer vos impôts. Ah, Oui, Mbokanini. Oui. Les gens venaient peut-être même, on les insultait. Ah oui, parce qu'à un moment, quelqu'un n'avait que ça. Il donne ça, mais il devait aussi payer l'impôt. Attention, les Juifs devaient payer l'impôt au temple. Et donc, ça faisait plusieurs choses. Donc, ça veut dire que les gens ne venaient pas comme ça. Et le Seigneur est bon. Et les... Un doigt. Non. Je peux m'imaginer certains, d'abord, avant même de poser l'argent, ils comptaient. Ça, il m'a fallu autant de jours. Et ils me prennent la moitié. On regarde le collecteur, on ne sourit pas. Mais dans son cœur, on l'insulte de tout. On souhaite même sa mort. Elle dit que cet argent soit une malédiction pour lui. Donc c'était ça l'ambiance. Mais ce jour-là, celui qui se tient devant lui est différent. Il respire l'amour. Il sait qui est cet homme qui est derrière. Voyez-vous? Et il appelle. Il a été touché certainement par l'amour qui s'est dégagé de la personne du Christ. Toujours est-il qu'il va tout laisser. Il comprend que cette vie était une mauvaise vie. Qu'il lui fallait une nouvelle vie. Il va tout laisser. Il va suivre le Seigneur. Il va expérimenter tous les bienfaits qu'il y a à marcher avec Jésus. Mais ce qui est formidable avec Lévi, il va créer une occasion pour que ses anciens collègues, les voleurs, les arnaqueurs sociaux comme lui, puissent aussi changer de vie. Il organise un festin pour Jésus-Christ. Oh, alléluia! Il invite ses anciens collègues, des collecteurs. D'ailleurs, les pharisiens qui étaient là, quand ils regardent tout ça, ils disent, tiens, vous dites ça, c'est le Messie. Regardez, il est dans la maison de qui? D'un voleur. Et ceux qui sont autour, d'ailleurs, je reconnais ce chef de collecteur-là. C'est un homme mauvais. Chez lui, quand vous allez, vous payez le double de ce qu'on paye chez les autres. Voyez-vous? Mais Jésus est avec eux. Autour d'une table. Et la méthode d'évangélisation que j'ai développée, c'est la table de Lévi. Vous préparez un repas à la maison, dans votre maison. Vous invitez les voisins. Vous invitez les collègues. Et à table, vous invitez Jésus. Ceux que tu as laissés dans le monde, avec qui vous avez fait les 100 coups, avec qui vous avez mal tourné, toi tu as eu la grâce de sortir de ce monde, eh bien le Seigneur les aime. Qui est bien placé, mieux placé pour les attirer si ce n'est que toi? Organiser la table de Lévi. Les voisins organisent un repas. Et au cours de ce repas, donner la parole à un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui va parler de Jésus. Et c'est ainsi que le salut est entré dans la maison. Pour Matthieu, il était déjà sauvé, mais il s'est soucié des autres. Ça a été non seulement une occasion de rendre grâce à Dieu, comme en reconnaissance envers le Seigneur. On organise un repas, une sorte d'agape, mais en même temps, on fait de la table, de cette table, une occasion d'évangéliser la fameuse table de Lévi. Mes amis, et enfin Zachée. Zachée. Luc 19, 5 à 10. Jésus était avec la foule. Jésus était avec la foule. Vous savez, ce qui est formidable avec le Seigneur, il était conduit par le Saint-Esprit. Il s'adressait à la foule, mais il savait aussi s'adresser à des individus. Alors qu'il était entouré de la foule, qui buvait sa parole, qui les suivait, il y avait là un monsieur tout petit, peut-être plus petit que moi, mais enfin. Mais est-ce que ça... Pasteur,
Il y a les petits, il y a les moyens, il y a les grands, et puis il y a les super grands. Alors moi, je ne sais pas dans quelle case vous allez me mettre. Toujours est-il qu'il était très petit. Alors la foule était constituée de gens comme le pasteur Alain Bissouta, le pasteur Alain Aimé, des gens grands. Alors lui, petit, n'arrivait pas à voir. Mais vous savez, quand quelqu'un, le Seigneur cherche quelqu'un, il crée des circonstances. Cet homme avait un besoin, ça brûlait en lui, voir Jésus. Alors il a réfléchi, il s'est dit non, par moi-même je ne peux pas y arriver. Il regarde, il y avait un sycomore. C'est un genre d'arbre qui pousse en Israël, dans le Proche-Orient. Il va, bien qu'il ait été riche. C'était un riche. C'était un chef de collecteur. Donc, chef Yaba Mathieu. Ouais. C'était un chef. Voilà. Et on peut imaginer comment il s'est comporté en tant que chef. Un bout d'homme. Souvent, ces gens qui sont complexés par leur taille, ils laissent la barbe pour impressionner. Alors, quand ils arrivent, ils regardent leurs employés comme ça. Luc. Et Luc suit en regardant son chef comme ça. Et quand le chef se retourne, il ne veut pas le regarder comme ça, ça serait humiliant. Il le regarde au niveau du ventre. Il dit, voilà, tu dois faire ceci. Oui, chef. Ok, tu pars maintenant. Ils veulent s'imposer. Parce qu'ils sont petits. Ouais. Et donc, ça, c'était Zachée. Voilà. Petit, mais beaucoup d'argent. Vous voyez, l'argent ne choisit pas la taille. Oh, Azamokouse, mais il est riche. Mais ce qui est bien avec Zachée, c'est qu'il a oublié sa richesse. Lorsque, vis-à-vis du Seigneur, la richesse ne compte pas. La position sociale ne compte pas. Le respect, la respectabilité, tout ça ne compte pas. L'homme oublie. Il dit, c'est aujourd'hui le jour où je dois le rencontrer. Il monte, il grimpe. Au sycomore. Et puis il regarde au loin. Il voit le Seigneur qui s'avance. Et gloire au Seigneur. Quel courage, quelle audace. Et quand le Seigneur arrive au niveau de cet arbre, de ce sycomore, il s'arrête. Certainement la foule s'est dit, mais il lève les yeux. Il dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Oh, alléluia. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Descends de ton sycomore. Mes amis, il y avait la foule. En cet instant précis, c'est l'individu qui l'intéressait. L'individu et sa famille. Il aurait pu se contenter seulement de Zachée. L'amener à la repentance. Zachée, tu dois. Et Zachée se serait converti là. Et puis le Seigneur, avec la foule, aurait continué, oui ou non. Pour le Seigneur, chaque âme compte. Chaque âme a du prix. Parce que quelquefois, on pense qu'il faut toujours une foule. Voyez-vous, moi j'ai déjà eu à prêcher devant 5 personnes. J'avais une deuxième église en Europe où il n'y avait que des personnes âgées. Mais à force de les enterrer, les places restaient vides. Mais je prêchais comme si il y avait devant moi toute une foule. Je m'en fichais perdument. Pourvu que j'accomplisse le ministère. Parce qu'il y en a. Moi, j'ai eu connu des gens à l'époque. Vous voulez l'inviter, il pose la question, frère, vous avez combien de membres dans l'église? Ça, c'est quelque chose qui m'est dérangé. Donc, vous prêchez parce qu'il y a la foule. Il faut prêcher parce que c'est votre vocation. Amen. Philippe, dans cette ville de la Samarie, a prêché aux foules. Il y a eu un réveil. Il y a eu des miracles, oui ou non? Eh bien, quand les apôtres arrivent, eh bien, le Seigneur lui parle. Laisse tout, laisse aux apôtres qui sont arrivés, va sur le chemin qui descend
de Jérusalem à Gaza. Si moi j'avais été à la place de Philippe, je me suis toujours posé cette question. Comment j'aurais obéi? Où j'aurais agi? Je dis non, ça ce n'est pas Dieu.
Autant d'âmes. Je prêche, des démoniaques sont délivrés. Voilà une voix qui me dit, je dois tout laisser, prendre un chemin désert. Qu'est-ce que je rencontrais sur le désert? Vous voyez, Dieu a ses plans. Dieu savait. Il avait accompli cela. Il devait partir dans l'autre direction. Et dans cette direction, il n'y avait qu'une seule. Ah, l'eunuque éthiopien. Quand il arrive là-bas, le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Et quand il s'approche, c'était un homme qui était déjà préparé, qui lisait le prophète Ésaïe. Il pose simplement la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais comment voulez-vous que je le comprenne s'il n'y a personne qui me l'explique? Et là, il monte, et là, il lui explique. Sur le champ, l'homme comprend. Il est touché par l'évangile. Il reçoit le Seigneur. Il dit, mais je veux te baptiser même maintenant. Non, c'est là, boy. Cherchons un endroit, il y a là. Il y a un puits. Et là, ils descendent, l'homme est baptisé. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur. Nous pensons que nous impressionnons le Seigneur quand nous nous adressons à la foule. Rien. Le Seigneur est émerveillé lorsque nous accomplissons son plan. Lorsque nous sommes là où il nous attend. Peut-être avec une seule âme, comme le nuque éthiopien, ou même comme avec Zachée. Il a tourné le dos à la foule pour aller chez un pêcheur, chez un collecteur d'impôts. Et là, Zachée va le recevoir, lui et toute sa famille. Le salut est entré dans cette maison. Et le Seigneur dira, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Voilà ce qu'il est venu faire. Mes amis, nos maisons, nos familles doivent devenir des lieux où le Seigneur rencontre le perdu, où le Seigneur apporte la bénédiction là où il y a la malédiction. Alors, comme à l'instar de Lévi, à l'instar des Zachée, à l'instar du geôlier, eh bien, transformons nos maisons en des lieux où le Seigneur agit. Acclamons le nom du Seigneur. Nous allons prier, si vous voulez bien, nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à ce que le Seigneur nous aide à mettre cette parole en pratique. N'attendez pas la fin de la convention. Vous pouvez déjà passer à l'œuvre, à l'action. Et que vous deveniez des ouvriers du salut dans les maisons. Alléluia. Et vous allez voir qu'en peu de temps, eh bien, vous remplirez cette ville de Matadi des hommes et des femmes sauvés par la grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci pour avoir été avec nous. Merci d'avoir béni ta parole. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes, ô Dieu, qui mettent en pratique ta parole. Seigneur, transformez nos maisons en des lieux où tu te manifestes puissamment. Transformez nos familles, Seigneur, en opportunités pour annoncer, pour proclamer l'évangile à nos proches. Aide-nous à faire de nos maisons la table de Lévi. Aide-nous à faire de nos maisons comme celle des Zachée, que nous puissions nous préoccuper du salut de nos proches. Merci de nous aider. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.